Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin dans la matinale, nous allons traiter de BD, mais pas seulement de BD, également d'édition, de micro-édition, de fanzine. Restez à l'écoute, juste après, on en parle juste après le générique. Ce matin, pour m'accompagner, un invité, j'ai avec moi Yann Plan pour parler de la micro-édition d'une boîte ou d'une association qui vient de sortir, qui s'appelle Zine Panic. Bonjour Yann.
Bonjour.
Bienvenue sur Graphite, bienvenue sur notre antenne. On va parler ce matin donc de BD, de micro-édition et de zine. Qu'est-ce que c'est un zine pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout ce terme zine?
Alors c'est assez compliqué, je vais essayer de résumer un petit peu ça. À l'origine, donc, c'est fanzine et ça désigne plutôt des publications qui sont produites par des fans. Donc sur différents sujets, ça peut être le cinéma, la bande dessinée, et souvent ce sont des publications qui se caractérisent par leur côté un peu cheap, hein. Elles sont photocopiées, agrafées, un petit peu dans l'esthétique punk, do it yourself. Et aujourd'hui, le mot zine couvre une réalité quand même plus complexe, plus large. Alors ça peut être bien sûr toujours des publications de fans, mais c'est aussi des auteurs qui s'autopublient. Ça peut être des publications cheap, comme je l'ai indiqué, mais ça peut être aussi des livres-objets très sophistiqués. Alors du coup, on peut considérer qu'aujourd'hui, le mot zine, ça désigne toute publication qui est tirée en un nombre d'exemplaires très limité et qui ne passe pas par les circuits commerciaux traditionnels.
Souvent, quand on est amateur de musique, on a tous connu les zines de musique qu'on s'échangeait au lycée quand il n'y avait pas encore Internet. Là, sur Wikipédia, il marque Fanatic Magazine. Du coup, tu es un peu un fanatique des BD, ou c'est ça?
Oui, c'est ça, on peut le dire comme ça. J'ai eu trois phases, on va dire, lune de miel avec la bande dessinée dans ma vie, en fait. Il y a toute la période dans l'enfance qui est liée à la BD franco-belge. Voilà, ma maman m'offrait au fur et à mesure tous les albums de Tintin. Donc j'ai découvert la bande dessinée franco-belge.
Classique, là, du coup.
Voilà, tout à fait classique. Il m'a fallu du temps, en fait, avant d'arriver à la bande dessinée alternative. Au collège, ça a été la vague des mangas, Akira, etc. La découverte de Fluide Glacial aussi. Et puis, au tournant des années 2000, à la fin des années 90, j'étais abonné à la revue Mad Movies, qui existe encore aujourd'hui, parce que je suis un très gros fan de culture bis, de films et de littérature de genre. Et dans une de leurs chroniques, il y avait une rubrique sur la bande dessinée. Il présentait un livre du fameux Alan Moore, vous connaissez sans doute, hein, V pour Vendetta, Fromel, Les Watchmen. Voilà, les bandes dessinées sont bien meilleures que les adaptations cinématographiques qu'il critique beaucoup, Alan Moore lui-même.
Souviens-toi du 5 novembre. C'est bien ça,
ouais.
Dans le V pour Vendetta.
C'est ça. Et donc j'ai découvert Alan Moore à l'occasion de cette critique. Je me suis précipité, je m'en souviens comme si c'était hier, à la librairie pour aller acheter un exemplaire. Et ça m'a ouvert une porte incroyable sur un nouveau monde, complètement. J'ignorais complètement, moi qui étais pourtant fan de culture bis, dans la bande dessinée, j'étais pas encore arrivé. Et là j'ai découvert le monde de la bande dessinée alternative. Et il y a eu une dernière phase, c'était il y a quelques années, quand j'ai découvert qu'il existait aussi un monde assez dissimulé, obscur. Un monde complètement parallèle sur les zines de bande dessinée, voilà, donc des choses complètement difficiles à trouver, avec ce sentiment de faire partie d'un club un peu privilégié, qui évolue dans un cercle un peu fermé.
C'est subversif ou pas du tout? Ça ne peut pas être subversif, du coup, le zine alternatif?
Alors, zine alternatif, c'est très intéressant parce qu'il y a une très grande diversité. On va y trouver des choses qui sont très, dans l'esprit, très mainstream, finalement, des choses qu'on pourrait trouver dans les librairies. Et puis aussi, il y a tout cet aspect qui m'intéresse beaucoup plus, du coup, c'est le côté effectivement plus subversif, avec des formes très, très diversifiées, des propos très, très réactifs parfois à l'actualité, parce que l'intérêt aussi du zine, c'est que ça peut se sortir très rapidement quand on est dans le cadre d'un livre qui se photocopie, par exemple. Et donc, ça peut être très réactif par rapport aux événements d'actualité. Donc oui, effectivement, ça, c'est l'aspect très intéressant.
Vous avez donc lancé une association avec ta compagne. Pourquoi avoir choisi le mode associatif? Parce que c'est le seul mode viable pour ce genre de publication?
Alors, c'est notre première aventure dans le domaine de l'édition, de la micro-édition. Alors, on sait que c'est un secteur qui se porte assez mal, contrairement à ce qu'on pourrait penser parfois, parce que les étals sont pleins de livres. Alors, c'est un petit peu trompeur. Et la bande dessinée est à l'image du marché du livre. En fait, ça se passe plutôt assez mal. Il y a une crise assez importante qui est liée à la surproduction. Et la surproduction, finalement, ça engendre une durée de vie des livres qui est très courte dans les librairies. Ils ne peuvent pas exposer tous les livres qui sortent chaque semaine.
Un peu comme au cinéma, quoi.
Voilà, c'est comme au cinéma. Il y a vraiment une crise culturelle, et y compris dans l'édition. Et du coup, les auteurs ne vivent pas non plus. Il faut faut le savoir quand même, hein, les quelques auteurs qui vivent de la bande dessinée sont quand même très très peu nombreux en France. La plupart du temps, c'est plutôt en mode galère. Donc ils ont beaucoup de petits jobs à côté. Les droits d'auteur sont très faibles. Et quand on parle de bande dessinée, c'est un investissement parfois qui se fait sur plusieurs années quand on parle d'albums, par exemple, ou de séries. Alors nous, ce qu'on voulait développer, c'était dans le cadre justement associatif, c'était ta question, hein. On voulait vraiment avoir une démarche, on va dire, engagée. Et donc, le mode associatif nous paraissait être l'aspect idéal. On ne voulait pas que ça soit lucratif du tout. Donc, la vente de nos albums va financer simplement la production des albums suivants. Et donc, voilà, notre modèle économique, si on peut parler comme ça, finalement, c'est celui de la micro-édition. Et on pourrait dire de la solo-édition. Donc, micro-édition, parce qu'on va sortir un nombre d'exemplaires très limité. On est dans une démarche anti-pilon. Voilà, parce qu'il y a un nombre de livres qui partent au pilon chaque année. Voilà, les livres ne sont pas défendus, ne sont pas montrés, ou alors quelques jours en librairie, et ils partent au pilon. Donc nous, c'est des petites quantités. On va essayer de vendre et de défendre ces livres jusqu'au bout. Et puis la slow édition, parce qu'on n'a pas plus d'ambition que de sortir 2 albums maximum par an. Donc voilà, avec cette idée qu'on souhaiterait faire découvrir en fait des titres qui n'ont pas trouvé le chemin des maisons d'édition traditionnelles. Voilà, donc soit parce que l'auteur est méconnu, soit parce que le format ne correspond pas aux standards habituels.
Tu m'avais ramené lors d'un ciné-culte, un fanzine que tu avais édité qui s'appelle Love, qui parle de Idols, le groupe Idols, le groupe de musique d'ailleurs qu'on a sur Graphite. C'était la première, c'était un petit peu une mise en bouche avant de lancer la maison d'édition, ou tu avais déjà fait d'autres choses avant?
Alors ça, c'est vraiment un projet parallèle à la maison d'édition, c'est ce qui a été un peu le déclencheur. Hein. Pour la petite histoire, j'ai un petit garçon qui se passionne pour le dessin, comme tous les enfants. Et je me suis mis à regriffonner à côté de lui. Voilà, c'était mon plaisir quotidien. Et j'ai pris plaisir à dessiner. Et comme je suis un fan de cinéma, je suis un fan de musique, je suis un fan de littérature. Et à ce moment-là, j'écoutais Idols. Et donc, j'ai passé mon été, effectivement, à écouter Idols au casque la nuit quand mon fils dormait. Et puis, à griffonner sur des pages, des petites histoires qui parlaient des chansons d'Idols. En fait, c'était une sorte c'est une forme de jam, pas musical, mais dessiné, on va dire.
C'est sur l'album Joy, c'est ça?
C'est ça, Joy as an Act of Resistance. Et donc voilà, donc, c'est vraiment un travail sans prétention. Effectivement, moi je fais des zines, et c'est ce que je voulais dire aussi à l'antenne, j'en profite. Hein. Tout le monde peut faire des zines à sa hauteur. Voilà, moi je suis passionné, comme je disais, de musique, de cinéma, donc les zines que je fais sont en rapport avec la musique et le cinéma, mais c'est vraiment sans prétention, et c'est pour les copains, en fait, on va dire.
Voilà. Je crois que c'est à Poitiers qu'il y a une très grande bibliothèque de zines, c'est ça? En fait, tous les gens qui font des zines envoient des exemplaires là-bas. C'est un peu le Dina du fanzine, c'est ça?
Oui, exactement. Et d'ailleurs, on sent qu'il y a quelque chose et un frémissement dans...
C'est la fanzinothèque?
C'est ça, oui. Et il y a un frémissement dans ce monde parallèle du zine ces dernières années qui est assez réjouissant, on va dire. J'ai vu également, hier, on m'a amené un article qui relatait qu'un autre couple à Paris avait décidé d'ouvrir...
Des homonymes en plus.
Oui, des homonymes en plus. Exactement, c'est assez troublant. Et qui ont ouvert une sorte de bibliothèque de zines à Paris en libre consultation. Donc oui, il y a un frémissement dans le monde du zine qui avait un petit peu disparu avec l'arrivée d'Internet, et c'est assez réjouissant de revoir arriver le papier et ces démarches-là.
Là, donc, il y a une première édition qui vient de sortir qui s'appelle « Et vient la nuit » de Travis Rommerheim. On en parle juste après un morceau. On va écouter justement un morceau d'Idols avec le morceau « Mercedes Marxiste ». C'est le morceau qui est en prog, et on se retrouve juste après. We'll be right back. 7h12 sur les ondes du 94.9, on est toujours en compagnie de Yann pour parler de micro-édition ce matin. On parle de la sortie de ce livre qui s'appelle « Et vient la nuit » de Travis Romerheim. Il vient de... C'est un Américain, c'est bien ça si je dis pas de bêtises ?
Oui, basé à Seattle.
Comment s'est fait la rencontre ? Comment on le contacte pour lui dire « Hey, je voudrais bien éditer ta BD en France ?»
Alors, en fait, je suis, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je suis tombé dans le monde du fanzina de bande dessinée il y a quelques années. Je suis devenu un gros collectionneur. Donc, je me suis mis à collectionner des zines de bande dessinée de partout dans le monde. Donc, j'en reçois chaque semaine plusieurs. Et je sélectionne les lectures qui me marquent le plus. J'ai un compte Instagram, d'ailleurs, dans lequel je poste ces images et je fais quelques commentaires.
Ah, il y en a deux, du coup. Il y en a une perso et puis il y en a un pour la maison d'édition.
C'est ça, on a séparé strictement. Il y en a une pour ma collection, on va dire, et l'autre pour la maison d'édition. Ce livre-là m'avait... Enfin, c'est pas un livre d'ailleurs, c'était un zine précisément, hein, puisqu'il était auto-publié par l'auteur, agrafé à quelques dizaines d'exemplaires. Donc j'avais réussi à m'en procurer un. Et la lecture m'avait beaucoup marqué, et donc je l'ai contacté pour discuter avec lui de sa démarche, de sa vie d'auteur. Et puis à l'issue de cette discussion, je lui ai proposé d'être effectivement le livre vitrine un peu pour notre maison d'édition, d'être le premier titre.
Oui. Il a accepté tout de suite, direct, il a dit OK ou... Ouais.
Il était super enthousiaste en fait, parce qu'il faut savoir que... La France, c'est un marché énorme pour la bande dessinée au niveau mondial. Souvent, on dit que c'est le troisième plus gros marché. Et il y a encore, en particulier chez les auteurs américains, ce sentimentalisme par rapport à la France et voir effectivement son livre traduit en français. Alors que là, en l'occurrence, on est dans le cadre d'un zine qui ne verra peut-être jamais le jour chez un éditeur américain. Effectivement, il a accepté tout de suite. Je tiens à dire d'ailleurs qu'entre-temps, depuis la publication, ça n'a probablement rien à voir du tout, mais il a signé un contrat et ce livre sortira également dans une petite maison d'édition aux États-Unis.
En anglais, enfin en américain quoi.
En américain.
Du coup, là en français.
Ouais.
Là, la traduction, elle est faite par qui la traduction ?
Alors c'est moi qui me suis chargé de la traduction.
Ça va, il n'y a pas trop de lecture dedans ?
Non,
beaucoup d'images.
Oui, c'est beaucoup de dialogues, effectivement. Donc, oui, c'est très, très visuel. C'est une histoire qui est surtout posée par l'atmosphère qu'impose l'auteur dans le récit. Oui.
Comment avoir choisi la maison d'édition, enfin pas la maison d'édition, l'édition de celui qui a fait le bouquin, le papier,
alors,
l'imprimeur, voilà, c'est ça que
l'imprimeur. Oui, alors ça s'est fait assez naturellement. Là, on est sur une technique un petit peu particulière. On voulait sortir un livre qui n'est pas un livre standardisé, voilà, avec du papier glacé. On voulait un joli livre,
très agréable au toucher.
Ouais, quelque chose de très très tactile, effectivement. Et il se trouve que donc en contactant Travis, naturellement, on s'est orienté vers un livre de cette nature, puisque lui-même avait utilisé la technique de la risographie pour imprimer son livre. Donc c'est une technique très, très particulière qui était tombée un peu en désuétude et qui revient un peu à la mode ces dernières années et qui a pour particularité d'être assez peu onéreuse, et puis surtout qui donne un aspect très très particulier à l'impression, voilà, un aspect un petit peu vaporeux, et puis quelque chose qui n'est pas tout à fait net, parce que les couches d'impression se font successivement, on peut imprimer qu'une couleur à la fois, donc on repasse les pages en fonction du nombre de couleurs que vous voulez imprimer, et du coup la superposition ne se fait pas toujours de manière parfaite, mais ça donne quelque chose justement de très...
C'est un peu le même grain que les comics des années 80, les Strange, les Marvel et ce genre de choses, c'était aussi... une impression un peu effacée comme ça ?
Alors, c'était une autre technique d'impression, mais effectivement, on a quelque chose d'un petit peu vintage, on va dire, dans l'esprit, effectivement. Et du coup, on s'est tourné très naturellement vers Studio Fidèle, qui est un atelier de risographie à Paris assez connu et qui a déjà produit des livres de très belle qualité dans ce domaine.
Là, le bouquin est en vente à 14 euros. C'est le coût de fabrication à peu près d'un livre comme ça, ou il y a une petite marge pour pouvoir mettre de l'argent pour le prochain ?
Alors, ça a été, en toute transparence, on est très proche du coût de revient, puisque pour fabriquer 100 exemplaires, ça nous a coûté précisément 1100 euros, donc ça nous est revenu à 11 euros par exemplaire. On a pris un engagement aussi fort par rapport aux auteurs, puisqu'on a voulu payer les droits d'auteur immédiatement, pas en fonction des ventes, mais immédiatement à l'impression. En fait, c'était dans le contrat qu'on a proposé.
Ça se passe comment, les droits d'auteur pour un auteur, les droits d'auteur justement pour de la BD, c'est quoi? C'est un tarif à l'exemplaire, c'est quoi?
Oui, alors c'est assez complexe. Parfois, il peut y avoir des avances sur droit, donc c'est-à-dire qu'on va effectivement verser des droits d'auteur avant même que les livres aient été vendus réellement.
Comme dans la musique, ouais.
Comme dans la musique. Et après, ce sont des pourcentages, et en général, c'est assez faible, on va dire entre 4 et 7%, voilà, donc nous on est parti sur 10%, alors au final ça fait pas une somme colossale puisqu'on est sur un tirage assez limité, mais nous on s'est dit, voilà, on paye correctement nos auteurs, dans l'esprit en tout cas, donc on leur donne 10% et on n'attend pas que les livres soient vendus, on leur donne dès le livre imprimé.
Voilà. Du coup il y a aussi une partie qui revient aux auteurs en termes d'impression, enfin en termes de bouquins, est-ce qu'il en a demandé pour en avoir quelques exemplaires dans les 100?
Oui, souvent ça fait partie du deal, hein. Souvent comme on ne peut pas les rémunérer beaucoup, dans le deal souvent on inclut effectivement des exemplaires.
Que lui va vendre ensuite par la suite, c'est ça?
Que lui peut vendre éventuellement, effectivement, donc là pour être concret et conclure sur cet aspect-là, il faut qu'on vende 94 de nos 100 exemplaires pour rentrer dans nos frais. Donc les 6 exemplaires restants sont déjà écoulés puisqu'on en garde 2 pour nos archives et on en a envoyé quelques-uns pour faire de la promotion. Donc vraiment, on est dans l'idée que pas de pilon, on va défendre notre livre, on va le vendre jusqu'au bout. Et voilà, c'est notre démarche un peu.
Là, il va y avoir un prochain qui va sortir en janvier normalement pour le festival d'Angoulême. Mais est-ce que du coup, on va pouvoir le retrouver, et vient la nuit, est-ce qu'on va pouvoir le retrouver dans une librairie, genre la librairie des signes par exemple?
Alors la question des circuits de distribution est assez complexe quand on en vient à parler des zines. Donc là pour l'instant il est disponible sur notre
Bicartel.
Ouais, sur notre Bicartel, sur notre boutique en ligne. On a réfléchi à d'autres moyens de distribution. Nous on vise effectivement, on a fait une demande pour être présent au prochain festival d'Angoulême, au spin-off précisément, parce que là on a un public forcément qui est à la recherche de ce genre de livres. Et puis on a réfléchi aussi à des circuits un petit peu plus traditionnels, des circuits de proximité surtout. Donc là pour l'instant on est en partenariat avec une librairie de bande dessinée à Lille qui s'appelle BD Plus Café, parce qu'on est originaire de Lille et parce qu'on connaît bien la librairie et que par conséquent ils nous font des conditions très avantageuses. Bon, pour dire les choses clairement, ils nous font rien payer en fait, ils nous font cette fleur de nous vendre, de nous voilà, disposer ce livre en librairie pour rien du tout. Après, le dépôt en librairie c'est toujours compliqué parce que les librairies elles ont besoin de fonctionner,
ouais.
Et elles ont peu de place et souvent elles demandent des remises libraires que nous on peut pas se permettre puisque comme j'expliquais tout à l'heure notre prix de revient notre prix de vente coïncide avec le prix grosso modo le prix de revient.
Là dans l'assaut pour le moment vous êtes 2?
Oui.
C'est pas trop compliqué pour prendre les décisions?
Non, c'est pas trop compliqué pour prendre les décisions. C'est plutôt agréable pour le moment d'ailleurs parce qu'on est sur quelque chose, une structure qui est assez souple, assez légère. La répartition des tâches se fait assez naturellement. Et donc, vu la production qui est relativement limitée, c'est même plutôt assez efficace.
Et le crowdfunding, du coup, de vendre déjà les éditions avant de les imprimer, c'est quelque chose que vous avez envisagé ou c'est un modèle que vous voulez pas entrer dedans ?
Alors, c'est un modèle qu'on a envisagé, effectivement. Nous, on a déjà participé à de nombreuses campagnes en tant que financeurs. Donc on s'est posé la question, bien naturellement. Il y a des éditions de bandes dessinées aussi qui bien sûr, qui se lancent là-dedans. D'ailleurs, des maisons d'édition qui sont plus grosses que la nôtre. Hein. Je pense par exemple aux éditions Roukmout, hein, des éditions nantaises qui ont sorti de jolis livres. Alors le problème du crowdfunding, en fait, c'est ce que nous on observe, hein, c'est que quand on est déjà connu, ça peut marcher très très bien. Et quand on est peu connu, souvent, ça se résume à rançonner la famille, les amis. Donc pour l'instant, on n'a pas voulu faire appel à ce genre de méthode, mais on se l'interdit pas dans l'avenir.
Ça permet d'être plus confortable sur la sortie d'un album, quoi, enfin d'une BD.
Ouais, complètement. Ouais. Ça peut, parce que bon, l'imprimeur, on le paye dès que le livre est imprimé, on n'attend pas les ventes, donc c'est un problème, hein, de trésorerie, d'avance des fonds. Donc effectivement, quand on fait appel à des préventes par un système de financement participatif, ça peut être très avantageux. Oui.
Là, sur la sortie du prochain ouvrage, ça va être le même format. Est-ce que vous êtes imposé un format pour que ça rentre dans une collection, ou non, ça va être un autre format avec... Parce que là, il fait combien en taille ?
Alors là, c'est presque un carré, on va dire. Je crois que c'est 20 sur 24 cm, je crois. Donc nous, on sera sur quelque chose de complètement différent. C'est un peu comme les cadres, hein. Un cadre pour chaque œuvre. Là, ça sera un livre-objet, on va dire, un objet-livre pour chaque histoire. Donc là, on sera sur quelque chose de totalement différent. On ne sera pas sur de la risographie, on ne sera pas sur un format carré, pas sur le même type de papier du tout. Mais par contre, la ligne éditoriale reste la même. On est sur de la bande dessinée indépendante. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on essaye à travers l'association, c'est quelque chose qu'on va essayer de développer à part l'édition. On va essayer de se tourner aussi vers la sensibilisation par rapport à la bande dessinée, qui souvent se résume à une vision un petit peu restreinte, c'est-à-dire c'est les petits Mickey, c'est la distraction infantile, ou alors ça va être les lectures pour ceux qui sont trop fainéants pour lire des livres sans images, par exemple. Alors ça existe, hein, ce genre d'album, effectivement, je dirais même que ça pullule dans les librairies, mais la bande dessinée, ça se résume pas à ça, c'est véritablement un art à part, qui a aussi ses Balzac. Voilà, je pourrais vous donner des tonnes de titres de gens qui sont d'auteurs, dont la production finalement, pour moi, est tout à fait équivalente à ce qu'on trouve dans la littérature aujourd'hui. Donc vous avez un auteur qui s'appelle Chris Ware, par exemple, qui aujourd'hui, pour moi, est le Balzac de la bande dessinée.
Il y a Jacques Tardy actuellement en exposition à Compiègne, par exemple.
Ouais, superbe exposition. Il était venu également pour intervenir dans une conférence qui était tout à fait passionnante. Là, on est plus dans le cadre de quelque chose qui est rentré, on va dire, dans le mainstream, on va dire, mais c'est aussi très intéressant.
Enfin, c'est du mainstream pour Adèle Blanc-Sec et puis pour Nestor Burma, mais pour ses autres ouvrages, c'est quand même assez compliqué à lire. Il y a beaucoup de textes. C'est du noir et blanc, enfin du noir et blanc avec un petit peu de colorisation. C'est pas quelque chose. C'est pas un Tintin, quoi.
Tout à fait. Il a fait d'usine d'ailleurs, hein, il y a très très longtemps, au début de sa carrière. Donc effectivement, on est dans le cadre de la bande dessinée adulte, mais de la bande dessinée, voilà, qui reste souvent, comment dirais-je, très traditionnelle dans son approche. Donc là, on est dans la bande dessinée historique, etc. Voilà, mais c'est tout à fait intéressant.
Là, le travail d'impression réalisé par Studio Fidèle à Paris, le choix est venu d'eux-mêmes. C'est facile de rentrer dans une maison d'impression, enfin chez un imprimeur. Il y a des temps d'attente, ou comme pour les pressages de vinyle, par exemple, ou pas du tout ?
Ça dépend, on va dire, de la pression des demandes au moment où vous vous adressez à eux.
Mais si on arrive, on dit « ouais, j'ai 100 impressions à faire », ils ouvrent les portes, ou il faut un peu mettre le pied dans la porte ?
Non, là, on est vraiment dans des... Pour ce qui concerne ce livre-là, donc, qui est en risographie, ils ont l'habitude des petits tirages, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est aussi un mode d'impression qui est assez peu cher, qui est assez en vogue aussi chez les artistes ces dernières années, et donc ils sont assez réactifs. Ouais.
On va réécouter un extrait musical. On va écouter, apparemment c'est l'album de l'année, alors je l'écoute entièrement, les disques, c'est l'album de l'année, c'est Michael Kiwanuka. On écoute You and the Problems, et ça rentre en prog, c'est pas encore dans la prog, mais vous pouvez l'écouter ce matin. Thank you.
makes you blind. I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Oh, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie. Love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself. No need to die. I'm only human. I'm done. You got to put me on. I know when you come along. Don't hesitate. Time heals the pain. You are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling. I hear you calling, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem.
Ce son a déjà, enfin, un de ces morceaux a déjà été désigné comme le son de l'année 2012. Et là, c'est donc le nouvel album de Michael Kiwanuka. Et ça vient de sortir, c'est dans les bacs. Et selon plein de disquaires qu'on suit sur Internet, sur Instagram et sur Facebook, apparemment, c'est un peu l'album de l'année. Bon, il reste plus qu'un mois avant de pouvoir se départager justement ces albums. C'est plutôt facile de le dire à la fin de l'année. Bon, c'est l'album de l'année. On reparle de micro-édition avec Zine Panic. Pourquoi le nom de Zine Panic ? C'est un clin d'œil à quelque chose ?
Alors, comme l'un des personnages de l'histoire, moi, je suis vraiment très mauvais pour nommer des projets. Je prends toujours des heures. C'est un des discours d'un des personnages dans l'histoire. Il dit, je prends des heures, des jours pour trouver un titre à mes projets. Et puis, au final, je le regrette pour toute la vie. Et moi, c'est un petit peu pareil. Donc, je me creusais la tête. Je me disais, oh là là, si on fait quelque chose, si on lance une action, il faut quand même un titre voilà, dont on soit fier, qui signifie quelque chose. Alors, je me suis creusé la tête pendant des jours. Et puis finalement, en furetant dans ma bibliothèque, voilà, j'avais envie de lire un livre. Un soir, je suis retombé sur un livre de Roland Topor, hein, qui s'appelle Café Panique. Voilà, Roland Topor, c'est vraiment...
C'était Téléchat pour les
plus simples. Oui, Téléchat notamment, ouais. Effectivement, oui. C'est une de mes idoles, voilà. C'est sur le plan de la culture visuelle, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, qui me parle beaucoup en fait, voilà. Et donc du coup, voilà, Café Panique, Zine Panique, ça m'a semblé naturel. Hein.
Et pareil, c'est un pseudonyme, du coup, ton pseudo. Comment il est venu ce pseudo ? Tu peux nous le dire, parce que tu me l'as dit tout à l'heure hors antenne, c'est assez drôle.
Oui, alors pour les anciens, on va dire, ça leur parlera peut-être. Yann Plan, c'est le nom qui était donné à un des personnages qui était sur les cartes Kratos, qui était très en vogue à la fin des années 80 en France. Voilà, et donc j'ai choisi ce pseudo parce que c'est mon premier choc visuel, mon premier contact avec la bande dessinée underground, parce que beaucoup l'ignorent, mais celui qui était en charge du projet Kratos, donc les Garbage Pail Kids aux États-Unis, c'était ni plus ni moins que Art Spiegelman, qui est l'auteur de Mouse, qui a été aussi le directeur de publication de la fameuse revue Raw, qui a été très influente dans la bande dessinée alternative, et les artistes qui réalisaient ces cartes étaient également des pointures de la bande dessinée underground. On retrouve Jay Lynch, John Pound, et donc vraiment, voilà, j'avais 9 ans, ça s'est changé dans les cours d'école, et j'en avais pas véritablement conscience, mais c'était mon premier coup de cœur, la première fois que je tombais amoureux la bande dessinée alternative sans véritablement le savoir.
Ça a été quand même vendu à 12 millions de pochettes, donc il y a eu 500 000 albums qui ont été vendus, et donc 23 500 points de vente en France. Et donc tu avais toi lesquelles deux cartes, parce qu'il y avait des cartes que tu pouvais coller, mais il y avait aussi des cartes un peu plus cartonnées, un peu comme les cartes de baseball.
Ouais, c'est ça, il y avait des cartes avec des dos qu'on pouvait gratter avec le vocabulaire avec, Kratos.
Et puis l'odeur, non, c'est pas, il y avait pas un truc avec de l'odeur?
Non, c'était les gratte-gomme, je crois, c'était une autre série de cartes encore. Et oui, bah, ça a été un phénomène absolument incroyable. Quand on creuse un peu, donc moi j'ai creusé un peu, je suis devenu un historien des Kratos, je suis allé déterrer plein de documents. Donc il y a le commandant Cousteau à l'époque qui avait écrit une lettre ouverte au gouvernement en disant que les enfants, c'était inadmissible de les exposer à ce genre de choses, qu'ils allaient finir à la cocaïne, c'est dans la lettre hein, qu'il a écrite au gouvernement. Il y avait eu aussi une session.
Commandant Cousteau, c'est un mec qui balance de la dynamite sur les
barres. C'est le même, oui. Il y avait une session aussi assez incroyable à l'Assemblée nationale où vous avez des députés qui avaient pris la parole là-dessus sur ce phénomène des Kratos. Donc il y avait notamment Estrosi qui est le maire de Nice aujourd'hui, qui avait pris la parole en disant qu'effectivement les pédopsychiatres disaient que c'est tout à fait perturbant pour les enfants et qu'il fallait faire quelque chose. Puis finalement on n'a pas arrêté le phénomène Kratos. Il y a eu deux séries qui sont sorties en France qui ont eu un succès absolument considérable. Et puis pour la petite histoire, ça s'est répandu dans le monde entier, hein, parce que vous avez des versions partout dans le monde, hein. Vous avez dit Total Caputon Kid en Allemagne, vous avez le Garbage Gang en Grande-Bretagne, en Australie, vous avez une version en Israël, vous avez les Bukimikun au Japon. Donc ça, voilà, la saleté, la crasse, c'est répandu partout dans le monde.
Ouais, pour les enfants, c'est normal, ça les attire. Hein. Mettre son doigt dans son nez et puis que ça sorte par le haut de la tête, ça les attire automatiquement.
Exactement.
Il y a eu plein de choses. Hein. Il y a eu des t-shirts, des cartes postales, des 45 tours, un jeu de société. Il y a eu des bandes, il y a eu des dessins animés aussi également. Et puis aussi, il y avait aussi des petits. Tu pouvais avoir un petit, pas un petit bulletin là, un petit, comment ça s'appelle, mince. Ce qu'on reçoit quand on fait des études.
Ah oui,
un diplôme.
Un diplôme.
Tu peux avoir un
bien
petit
sûr,
diplôme
oui.
Des Kratos
oui, oui.
Avec. Voilà.
Oui.
Il y a Anto qui est arrivé avec nous. On va pouvoir tout à l'heure parler d'une date qui va se dérouler ce soir. Tout à l'heure, ça sera au Zicodrome. Ça sera Cannibal et Cheap Wine dans le cadre du festival Haute Fréquence. C'est donc ce soir, vendredi 8 novembre. C'est au Zicodrome. Et bah, peut-être que le plus simple avant d'accueillir Anto, ce serait d'écouter un extrait de Cannibal. C'est en prog chez nous depuis très longtemps. C'est sorti chez Band Bad Records. Et on écoute le titre Choppy Night. Et c'est un morceau bien groovy pour la matinale, c'est pour vous sous la douche pour danser un petit peu. In my room, I look at my sweet guest. She swears her purpose above the sea cliff.
Lower. vendredi 8 novembre, retrouvez le festival Haute Fréquence au Zicodrome de Compiègne. L'association La Fusée vous propose un concert placé sous le signe du rock, avec au programme Cannibal, groupe normand de l'écurie Born Bad Records, inclassable et définitivement groove. En première partie, le blues psychédélique de Cheap Wine vous proposera des riffs aux saveurs 70s. Cannibal et Cheap Wine, vendredi 8 novembre à 20h au Zicodrome à Compiègne. Tarifs 10 et 5 euros, réservation sur le site Helloasso, association La Fusée avec 2Z.
Et voilà, de retour pour la matinale, donc le festival Haute Fréquence qui a commencé le 6 novembre et qui se finit le 29. Il y a plein de dates partout dans les Hauts-de-France, avant c'était uniquement en Picardie. Maintenant c'est dans les Hauts-de-France, notamment on a pu commencer cette soirée avec le 6 novembre avec une présentation de Gus Cam Electric. Alors c'est quoi son nom, son projet solo, comment ça s'appelle ?
Godimandé, c'est un spectacle dont le nom est Godimandé. Alors c'était plutôt sous forme d'atelier, atelier-concert, parce qu'il faut savoir que Julien Guyard, alias Gus Cam Electric, est un luthier et fabrique lui-même ses Camelen Goni, qui sont des harpes traditionnelles africaines, sauf que leur particularité chez lui, c'est qu'il les électrifie.
Ok, et donc ça c'était à la Cité des Bateliers.
À la Cité des Bateliers, dans la cale de la Péniche Fraissinet, là-bas, c'était très chouette.
Ce soir, on se retrouve donc au Zicodrome à Compiègne avec Cannibal et Cheap Wine. Cheap Wine, ça serait plutôt du blues électrisé.
Ouais, blues électrisé qui rappelle fortement les années 70. Je pense que c'est quelque chose de très commun chez tous ces projets du Celebration Days Records. Donc nos voisins Picard, qui sont du côté de Clermont, qui font un très très beau travail de découverte depuis maintenant 10 ans. Donc ils évoluent dans toute cette scène des années 70 et ils sortent tous les ans des projets très très cool. Là, Cheap Wine, ils vont nous présenter les morceaux de leur troisième album qui est prévu pour l'automne 2020. Printemps 2020.
Et qu'ils enregistrent dans leur studio, ils ont déjà fini leurs travaux ou tu sais pas encore ?
Plus ou moins, c'est en cours, ça avance assez vite j'ai l'impression.
Demain, samedi 9 novembre, vous pourrez aller voir Claire Diterzi. C'est de la chanson française et du jazz avec Trio Jazz Orchestra, Sopa Orchestra, c'est à Tracécy, donc à l'horloge à Tracy-le-Mont. Après, il y a plein de dates. Il y a Boulogne-sur-Mer, Calais. Tu veux aller faire un tour à Boulogne-sur-Mer ou à Calais, Yann, vu que tu es du coin de là-bas, c'est ça ?
Ouais, moi je suis originaire de là-bas, donc ouais, ce sera avec plaisir. Hein.
Et bien, avant, à Boulogne-sur-Mer, il y a Canine qui va jouer dans la salle qui s'appelle le Carré Sam. Tu connais le Carré Sam ?
Non, je suis jamais allé.
Ok, sinon il y a plein d'autres dates, vous pouvez les retrouver sur le site évidemment de Haute Fréquence, c'est www.haute-fréquence.fr, il y a également hashtag Haute Fréquence.
Il y a des gros noms et vraiment des dates découvertes où je pense qu'il ne faut pas hésiter à pousser les portes.
Pas loin de chez nous, il y aura le jeudi 14 novembre, il y aura Berry Wham et Double T pour une soirée beatbox et hip-hop, ça sera à Noyon au Théâtre du Chevalet. Il y aura également la date de Pierre-Paul Jacques et les Vieilles Canailles à Château-Thierry, mais je crois que c'est complet. Il y a Ponsac Maxence, il y a Yarol de Yarol Poupo, le guitariste de comment s'appelle Johnny Hallyday, ouais. Mais qui fait pas du tout ce que faisait Johnny, sera également à Pont-Saint Maxence, ça sera le samedi 16. Puis voilà, des choses à Ternier, à Tourotte, il y aura tout
bien sûr, ouais, bail,
j'avais
Tourotte,
oublié
ouais.
Votre date. Ouais.
À Tourotte, c'est un projet assez excellent. C'est Totoro, d'ailleurs, c'est un groupe qu'on suit depuis pas mal d'années. Là, qui fait un spectacle sous forme de gaming concert dans lequel ils mettent en avant et ils rendent hommage à un jeu qui a marqué leur adolescence, un jeu vidéo qui s'appelait Another World.
Et ça, c'est en partenariat avec vous également, avec La Fusée ?
Yes, ouais. On s'occupe du bar.
Du coup, en gros, vous ouvrez le festival le 6 à Longueuil-Annel et puis vous le clôturez le 21
non,
à
non,
Tourotte.
Non, 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 parce que ça se finit, ça va jusqu'au 29 novembre.
Ah d'accord, bah du coup.
Et d'ailleurs, pour les gens du Nord, il y a une date absolument superbe, le mercredi 27 novembre à Tourcoing, dans le 59, avec Troupa Troupa. D'ailleurs, j'ai regardé dans la playlist de Graphite, il y a un son de Troupa Troupa qui date de 2014 et qui tourne depuis l'époque. Et ils sortent un album, où ils viennent d'en sortir un, c'est des Polonais qui font quelque chose entre du rock psychédélique et du post-rock. Assez cool.
Bon, bah très bien, comme quoi on avait même déjà bon goût en 2014.
Exactement.
Yann, t'écoutes quoi au quotidien? Donc Idols, on l'a compris, au casque pour éviter de réveiller le petit. Mais du coup, c'est quoi les autres musiques que vous écoutez à la maison?
À la maison, c'est essentiellement du punk. Là. Donc là, ce qu'on écoute en ce moment, ce qui revient beaucoup, c'est pour les anciens, c'est les Bad Brains. Et puis pour ce qui est récent, là en ce moment, c'est beaucoup Turnstile. Voilà. On écoute Graphite aussi.
C'est bien, ça, c'est très bien. C'était, je te ferai le petit chèque après, avant de partir.
Merci bien, j'y comptais, justement.
D'ailleurs, en parlant de petit chèque, on va bientôt lancer un appel aux dons pour la radio. On va faire un espèce de, un peu comme RCF le font, les radios chrétiennes françaises. On va faire un graphite don avant la fin de l'année, puisqu'on est un peu en galère d'argent. Donc voilà, si vous avez des billets cachés, des lingots, n'hésitez surtout pas. Ça va arriver très prochainement sur les réseaux sociaux, un espèce de petit crowdfunding. Et puis on a des choses à pouvoir vous échanger en échange. On a des t-shirts, des tote bags. Et il nous reste aussi des affiches de Elzo. Alors comme beaucoup de gens nous envoient des messages du genre, il vous reste pas des affiches de la bourse au disque de 2018 tout. Comme il nous en reste une petite vingtaine, on les mettra dans le plus gros pack. Et je vais essayer de voir avec Elzo pour qu'il puisse les signer, si on peut se croiser pour qu'il puisse les signer. Comme ça, ça fera encore un beaucoup plus gros pack. Et du coup, Delphine, elle écoute quoi? Elle écoute la musique que t'écoutes ou inversement? C'est comment ça se passe à la maison pour la musique?
Ah, y a pas trop de difficultés. On se dispute pas tellement. On est vraiment assez raccord là-dessus. Donc elle aime bien la musique punk aussi. Donc c'est plutôt sympa à la maison.
Vous habitez dans le Compiénois, mais vous êtes souvent vers Lille, etc. Pourquoi partir dans le nord de la France? C'est plus pour les attaches familiales?
Oui, c'est ça. On est originaire de là-bas. Ça fait une quinzaine d'années qu'on est implanté quand même ici à Compiègne. Donc on apprécie beaucoup les nouvelles initiatives, donc les initiatives historiques, j'ai envie de dire, comme Graphite, les nouvelles initiatives comme celle d'Anto avec la fusée. Ça fait bouger vraiment le coin et ça nous pousse justement à rester davantage ici le week-end.
C'est quoi les derniers concerts que vous avez été faire? Alors, on ne dit pas Idols encore une fois.
Les derniers concerts que nous avons faits, alors ça remonte à cet été. On est allé dans un grand festival en Belgique, puisque c'est frontalier par rapport à là où nos parents habitent, c'était facile. Et on est allé assister à un certain nombre de concerts. Donc on a vu Les Cure, par exemple, voilà, quelques groupes assez fameux.
Des petits groupes en émergence, quoi.
Voilà, des nouveaux groupes, voilà.
Là, pour la sortie de l'autre album donc de BD, ça va sortir quand? Janvier? C'est quoi? Début janvier? Fin janvier?
Alors, le prochain album devrait sortir des presses dans le courant du mois de janvier. Le festival d'Angoulême a lieu le dernier week-end de janvier, donc on le gardera en exclusivité jusqu'au festival, si on arrive à avoir une table, parce que c'est compliqué pour une nouvelle structure comme nous, qui n'avons pas encore beaucoup de titres à présenter, tout simplement. Donc on attend la réponse, et qu'on soit à Angoulême ou pas, de toute façon, le titre sera disponible, effectivement, à partir de fin janvier.
C'est comment Angoulême pour les gens qui n'y ont jamais été? C'est quoi? C'est un peu... Comment ça se déroule là-bas? C'est un peu comme un salon de BD classique où des gens viennent faire dédicacer leurs BD, ou c'est vraiment un truc un peu plus pro avec des apéros et puis on discute des artistes qui sont un petit peu qu'on le vend en pot?
Alors c'est assez... ça dépend quel lieu vous fréquentez à Angoulême, en fait. Donc ça ressemble à une grande foire du livre. Ça peut ressembler à une grande librairie, une librairie géante. Donc les éditeurs sont tous présents avec leurs étals, leurs tables, avec leurs livres. Donc il y a le côté un petit peu qui pour nous est un peu déplaisant, voilà, avec beaucoup de monde, une grande foire du livre, des choses que vous trouvez dans vos librairies de proximité finalement. Et puis il y a aussi l'aspect assez agréable, il y a tout un circuit off. Donc il y a par exemple ce qu'on appelle le spin-off. Donc ça se passe en dehors des bulles traditionnelles où il y a les grands éditeurs, et vous avez là des nouvelles maisons d'édition, des nouveaux auteurs qui proposent des choses un petit peu différentes. Donc voilà, nous on navigue un petit peu entre les différents lieux, on essaye de découvrir de nouvelles choses, on va à la rencontre des auteurs. Voilà, ça peut être assez sympa si on se laisse pas trop prendre par l'aspect un peu très commercial de l'événement.
Ouais, c'est un commerce également, c'est vrai que c'est un marché, quoi, comme la musique, c'est un marché. Et là, sur les auteurs que tu as découverts, il y a des auteurs autres, parce que là, du coup, un auteur américain, on partira vers quel pays sur le prochain?
Alors là, on sera toujours sur les États-Unis. Il faut savoir que c'est un foyer pour, la culture zine. C'est absolument énorme, probablement plus qu'en France d'ailleurs. C'est vraiment culturel là-bas. Le nombre d'événements autour du zine est absolument considérable. Donc ça sera toujours sur les États-Unis. Sur les titres prochains, bon, on n'est pas encore fixé tout à fait, mais comme je vous disais tout à l'heure, on reçoit des zines du monde entier. Donc on a des auteurs très talentueux, une autrice très talentueuse du Liban, par exemple, qui s'appelle Tracy Sherwan. On a des auteurs de partout, du Danemark, de Grande-Bretagne, un petit peu partout dans le monde. Donc on n'est pas fermé, on va se déterminer dans quelques mois.
Ils éditent dans leur langue d'origine ou ils éditent principalement en anglais pour que ça soit lu un peu partout?
Alors, étant donné qu'effectivement les États-Unis c'est un lieu quand même central pour ce qui concerne la culture zine, très souvent même les auteurs étrangers effectivement publient en anglais. Ouais.
Et du coup, là, les auteurs étrangers, c'est quoi les noms si, pour les auditeurs qui peuvent rechercher, tu peux nous donner des noms?
Alors, si on reste dans la RISO, par exemple, j'ai un auteur anglais qui s'appelle Liam Cobb, C-O-2-B, voilà, qui a produit des choses en RISO, de très, très beaux livres. Vous avez aux États-Unis en RISO aussi un auteur qui s'appelle John Pham, P-H-A-M, qui produit également en risographie des choses qui sont vraiment très, très belles. Donc, voilà deux exemples d'auteurs qui sont très intéressants. Là, pour ceux qui aiment le punk, par exemple, moi, j'ai un livre que j'ai reçu il y a très peu de temps, que j'ai trouvé absolument formidable, d'un auteur qui s'appelle Josh Bayer, qui est basé à New York, un livre qui s'appelle Theth, c'est difficile à dire, T-H-E-T-H, et ça parle d'un type un peu punk, artiste, qui essaye de sortir son premier livre de bande dessinée, mais qui est complètement perturbé par l'idée de sortir quelque chose qui lui ressemble, qui soit pas influencé par la culture mainstream. Pour la petite histoire, d'ailleurs, Josh Bayer, c'est le frère d'un autre Bayer qui a réalisé, me semble-t-il, le clip Smell Like Teen Spirit. Ah, pour la petite histoire.
Ça fait partie de la pop culture, du coup, les fanzines, ou c'est vraiment la culture underground et... Est-ce que du coup c'est la frontière entre le côté un peu mainstream de la pop culture et le côté plus underground du do it yourself?
Ouais, il y a un petit peu
dans chaque.
Ouais, il y a un petit peu des deux, je crois. Ouais. Ouais.
Là, on pourra retrouver peut-être, on l'a dit, à la librairie des signes. Tu vas essayer de le mettre en dépôt ou pas?
Pour l'instant, j'ai pas encore discuté là-dessus sur la librairie des signes, mais on compte bien s'y rendre pour essayer d'en déposer quelques exemplaires. Oui.
Et vous avez contacté les bibliothèques? Comment ça se passe pour les achats de bouquins pour les bibliothèques?
On n'a pas encore contacté les bibliothèques. Non, c'est un aspect qu'on n'a pas encore travaillé.
Parce que souvent, ils achètent pas mal de livres. Ouais. Je sais pas comment ils font leur commande. Je crois qu'ils passent également aussi par des librairies locales. Normalement, une partie de leur achat, mais
ouais. Ouais, ils passent par les libraires qui leur présentent un certain nombre de livres et font leur choix en fonction de leur public ou de ce qu'ils veulent présenter à leur public. Ouais.
Là, c'est quoi l'édition de croisière, on va dire, le nombre d'exemplaires de croisière pour que du coup ça soit rentable et que vous puissiez à chaque fois rééditer un autre bouquin?
Voilà, notre idée, c'est vraiment de sortir une première saison, si on parle sous la forme des séries, ça parlera à tout le monde, une première saison avec deux livres qui sont tirés donc à 100 exemplaires. Voilà, c'est un nombre très modeste. Après, pour écouler 100 exemplaires quand on n'est pas connu, quand on démarre, je pense que c'est déjà un beau challenge. Voilà, donc on va partir sur 2x100 exemplaires. Et bon, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a besoin d'en vendre 94 pour rentrer dans nos frais et pour financer donc une deuxième saison avec un nouveau cycle de deux livres. Voilà, donc on va partir comme ça. Si on n'atteint pas nos objectifs, on sera plus modeste. L'année prochaine, on sortira un livre. Et peut-être que si c'est plus difficile, peut-être on ne sortira pas de livre pendant un an. Et la maison d'édition dormira pendant un an. On attendra de pouvoir promouvoir nos livres dans des salons, par exemple, là où on a certainement plus de chances de rencontrer le public. Donc voilà, donc rien n'est fermé et voilà, on n'a pas de pression particulière. On est passionné par ce qu'on fait, par ce qu'on propose. Et voilà, on verra comment les choses se présentent.
Il y a des aides possibles? Est-ce qu'il y a des subventions possibles? Est-ce que vous avez déjà regardé ça? Alors on sait que par exemple le cinéma, même le cinéma d'auteur, souvent est quand même pas mal subventionné. Est-ce que du coup pour le zine, c'est trop alternatif pour être subventionné?
Ça peut être fonctionné. Il y a des auteurs qui évoluent dans le zine qui essayent d'obtenir des aides du Centre National du Livre pour financer leur publication. Nous, on s'est posé la question, pas pour démarrer, parce qu'on s'est dit une maison d'édition qui n'a aucun titre et qui publie en plus des auteurs qui ne sont pas français, ça risque d'être un argument, un point négatif.
Il faut faire une version en picard.
Dans le dossier. Mais on va y penser, pourquoi pas.
Parce qu'il y a de l'argent dans les langues régionales.
Oui, c'est vrai. Non, pour l'instant, c'est pas un domaine qu'on a exploré, peut-être à tort d'ailleurs, il faudrait qu'on s'y penche plus sérieusement.
On retrouve les publications, déjà la publication Zine Panic sur le Big Cartel, donc c'est zinepanic.bigcartel.com. Est-ce qu'on peut également acheter celui-ci? Est-ce qu'il va être mis quelque part ou pas du tout, celui sur Idols?
Alors celui sur Idols, c'est le mien, donc sans prétention. Alors pour expliquer ce qu'il y a dedans, il y a une planche par titre de l'album Joy as an Act of Resistance, donc il y a une sorte de jam sur les chansons. Et à la fin, il y a une interview, puisque j'avais envoyé les planches au groupe, ça leur avait plutôt plu, ça les avait fait marrer. Et du coup, j'ai eu une invitation pour venir en loge avant l'un de leurs concerts au Zénith. Donc il y a une longue interview, la retranscription exception de quasiment une heure d'interview à la fin. Celui-là, non, c'est pas un travail professionnel. Je l'ai fait pour le plaisir et pour faire découvrir aussi le groupe. Donc, il est absolument gratuit. Contactez-moi si vous souhaitez en avoir un exemplaire. On peut se voir sur Compiègne. Je peux vous en envoyer un. Il n'y a absolument aucun problème. C'est un grand plaisir de le partager.
Et là, tu as échangé avec le guitariste et le bassiste ? Non, c'est pas ça ?
C'était le chanteur Joe et c'était le guitariste Marc.
Oui. Ok.
Qui m'avait reçu en slip d'ailleurs pendant toute l'interview. C'était très convivial, très sympa.
On le voit à la fin dans la BD, il est en slip assis.
Tout à fait.
Voilà, pour les auditeurs qui je vous le montre dans le studio. Mais bon, c'est très simple, vous n'avez qu'à le commander. Hein, on te retrouve sur Instagram pour faire cette demande directement.
Ouais, vous pouvez m'envoyer un mail sur Instagram ou sur également à l'adresse de la maison d'édition. Donc voilà, c'est zinepanic@gmail.com.
Toutes les infos, on les remettra sur la page Facebook de la radio. N'hésitez pas, si vous avez pris l'émission en cours de route, elle sera également podcastable, je pense, peut-être pas cet après-midi, parce qu'on sera au Zicodrome, mais sûrement demain ou après-demain. Plutôt lundi, parce qu'on va se reposer un vendredi, ensuite, c'est ça, lundi. Ça sera beaucoup plus simple. Et sinon, je vous rappelle le Big Cartel, zinepanic.bigcartel.com. En tout, ce soir, les réservations, c'est quasiment complet, le Zicodrome, c'est ça, 500
personnes. Donc ne tardez pas.
Concert assis ou concert debout
Non, c'est bien évidemment debout.
Et pour la bière, vous avez prévu quelque chose, comme il y a toujours une bière particulière dans vos concerts?
Toujours une lager classique et une bière plutôt locale.
Et là, ce sera qui là?
C'est Saint-Médard.
Saint-Médard, ok. Une bière vraiment très 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 locale. Compliqué.
Exactement, exactement.
On va se quitter avec un spot de Food Histoire. On le recevra la semaine prochaine pour nous parler donc de cet événement qui va se dérouler au Tigre. Et puis après, on finira avec Cigarette After Sex, le titre Heavenly. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce matin. Et puis pour les auditeurs, bon courage. Bon après-midi si vous allez au boulot. Il ne reste plus qu'une journée avant le week-end, donc profitez. Et puis nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle matinale. Allez, bonne journée. Salut.
Les 16 et 17 novembre, rendez-vous au Tigre de Margny-les-Compiègne pour Food Histoire, le festival international du spectacle historique et son marché de l'histoire. Venez rencontrer près d'une centaine de compagnies de spectacle historique avec leurs nombreuses spécialités. Musique, danse et chant, théâtre de rue, dressage animalier, arts militaires, animation de site, artisanat et bien d'autres. De son côté, le marché de l'histoire vous propose plus de 250 exposants pour vous faire voyager de la préhistoire jusqu'au XXe siècle. Food Histoire, samedi 16 et dimanche 17 novembre à partir de 10h, au Tigre, à Margny-les-Compiègne. Tarif 9,50€, réduit 5€, gratuit avant 4 ans. Restauration sur place. Retrouvez toutes les informations sur www.histoire-vivante.org. Dream. vendredi 8 novembre, retrouvez le festival Haute Fréquence au Zicodrome de Compiègne. L'association La Fusée vous propose un concert placé sous le signe du rock avec au programme Cannibal, groupe normand de l'écurie Born Bad Records, inclassable et définitivement groove. En première partie, le blues psychédélique de Cheap Wine vous proposera des riffs aux saveurs 70s. Cannibal et Cheap Wine, vendredi 8 novembre à 20h au Zicodrome à Compiègne. Tarifs 10 et 5 euros, réservation sur le site LOASO, association La Fusée avec 2 Z.